RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier comme chaque semaine. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent en partenariat avec le quotidien La Croix. Qui a eu donc cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Eh bien non, ce n'est pas Charlemagne et ce n'est pas Jules Ferry non plus qui l'a rendu obligatoire. Il n'a pas non plus mis en avant le fameux lire, écrire, compter dont on reparle beaucoup ces derniers temps. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons revisiter l'histoire de notre école et ainsi tenter de mieux comprendre d'où vient cette école qui nous est si chère, objet de toutes nos attentions. Claude Lelièvre, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes historien de l'éducation, professeur émérite à l'Université Paris 5. Vous tenez par ailleurs sur le site de Mediapart un blog intitulé « Histoire et politique scolaire » au pluriel. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'éducation et l'école et vous avez récemment publié un livre très intéressant intitulé « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire ». C'est aux éditions Odile Jacob. Avec nous également dans ce studio, Bernard Gorz, journaliste à La Croix. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, avec vous deux, nous allons donc pendant une heure converser autour de l'histoire de notre école, essayer de voir comment est-ce que l'histoire, le passé de notre école peut expliquer son présent.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui avec l'historien de l'éducation Claude Lelièvre, auteur d'un livre intitulé « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire » chez Odile Jacob. Et nous sommes également en compagnie de Bernard Gorz, journaliste à La Croix. Alors Claude Lelièvre, vous bousculez dans votre livre les images d'Épinal, vous bousculez bon nombre de nos certitudes, certes partagées mais souvent mal fondées. Car il faut le rappeler, chacun d'entre nous a été élève, peut-être parent d'élève et peut-être grand-parent d'élève. Et donc chacun a une idée, chacun est un peu ministre de l'éducation nationale. Mais vous, vous souhaitez remettre les points sur les i de nos idées, sur l'école et son histoire. Et votre livre nous réserve de nombreuses surprises, il n'y en a pas moins d'une cinquantaine. Vous nous parlez de tous ces débats, vous les resituez dans l'histoire, la laïcité, l'égalité des chances, la sélection, les réformes, l'égalité des sexes, l'uniforme, l'opposition peut-être entre instruire et éduquer, pardon, les fondamentaux, l'école unique, l'enseignement de l'histoire, le roman national, le calendrier des vacances, j'en passe. Alors, commençons par le commencement, si vous voulez bien. Claude Lelièvre, qui a imposé l'école ? Est-ce que c'est bien Charlemagne qui a inventé l'école ?
Non, ce n'est bien sûr pas Charlemagne. Au moment gallo-romain, par exemple, il y a eu de nombreuses écoles en France. C'est-à-dire, il aurait été magnifié par l'historien Lavis dans ses petits Lavis.
On en reparlera de Lavis, oui.
Qui montrait à quel point c'était un changement important pour la France, enfin pour la France, pour la Gaule. En revanche, quand même, Lapsus intéressant. Charlemagne.
Ouh là là, oui, alors là, c'est un lapsus géant. Nous le conservons. Allez-y, Charlemagne.
Charlemagne a quand même eu un rôle dans la restauration de l'école, et même une rénovation de l'école, parce qu'il tenait beaucoup pour la solidité idéologique de son empire à ce qu'il y ait une liturgie disons cadrée. Et donc il fallait avoir de bons copistes, il fallait avoir de bons lecteurs, de façon à ce qu'il y ait une uniformité au niveau du clergé. Donc il a demandé à ce qu'il y ait une école dans chaque évêché ou dans chaque grand monastère.
Donc il s'agissait d'une base religieuse à l'époque.
Il s'agissait d'une base religieuse, et manifestement l'école a beaucoup à voir avec la religion, d'une façon ou d'une autre, qu'on soit pour ou qu'on soit contre.
Depuis toujours
Depuis, en tout cas, cette dette-là, de façon évidente. Et encore maintenant, bien entendu. Donc c'est une dimension incontournable qui fait éventuellement débat, beaucoup moins débat maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans, on y reviendra sûrement, parce que c'est très intéressant de voir aussi ce qui, à certains moments, est très vif dans les débats.
Voilà,
et
ce qui est
à d'autres
vif,
moments
oui.
où c'est moins à vif. Donc Charlemagne,
en tout cas,
n'a pas inventé l'école. On ne peut pas dire qu'il l'a imposé non plus, mais il a fait un renouvellement de son importance.
Il voulait de bons curés et donc il avait besoin de bons copistes.
Oui, mais pour des raisons foncièrement idéologiques et politiques.
Voilà. Alors, on va faire un grand bond à travers les siècles, de Charlemagne à Jules Ferry. Est-ce bien Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire, Claude Lelièvre ?
Il n'a sûrement pas rendu l'école obligatoire, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que dans les dernières années, ça a posé une série de problèmes. C'est assez remarquable que Jules Ferry voulait absolument, on y reviendra sûrement, avoir une école républicaine, mais qui n'a pas imposé administrativement une école républicaine. Il pensait que l'école publique devait être républicaine et qu'elle aurait un effet d'entraînement. Mais il y avait à côté ce qui était obligatoire, c'était qu'il y ait une instruction qui pouvait se donner soit dans une école publique, soit dans une école privée.
Dès les débuts, soit
dans la famille. Donc c'est dans la loi et c'est marqué de façon très claire. Et ça correspond à l'idéologie républicaine de Jules Ferry, parce que dans le même temps, vous avez la liberté de la presse. Et pour lui, ça a à voir. Il n'est pas question d'avoir une école, par exemple, publique, monolithique. Il pensait que son école triompherait, mais pas par des mesures administratives, policières ou autres.
Et la gratuité de l'école, c'est à cette époque-là aussi.
C'est la gratuité, mais c'est un élément assez important. Mais il faut savoir quand même qu'au moment où Jules Ferry fait que l'école publique soit gratuite, déjà 80% des élèves qui fréquentaient l'école publique la fréquentaient gratuitement. Et d'ailleurs, un de ses arguments pour faire passer la loi de la gratuité, c'est de dire qu'il s'agissait d'achever un processus et non pas de le commencer. Souvent en histoire, on se trompe. Nos dates sont des dates d'achèvement et non pas de commencement.
Par exemple ?
Mais c'est le cas aussi pour l'obligation. Alors l'obligation est vraiment nouvelle, mais la fréquentation de l'école était déjà massive, aussi bien pour les filles que pour les garçons, au moment de Jules Ferry. C'est-à-dire qu'au moment où l'instruction devient obligatoire, même pas l'école, eh bien nous avons déjà, la très grande majorité des filles et des garçons qui fréquentent une école. Donc là encore, nous avons, j'ai dû lutter constamment dans mes cours à la Sorbonne, parce que nous avons une sorte d'inversion, c'est-à-dire que les grandes dates sont des dates plutôt d'achèvement que de début. D'accord. En revanche, sur la question laïque, ça c'est nouveau, c'est ce qui est avant tout nouveau. Alors, dans les grandes lois de Ferry.
Sur cette question de la laïcité, vous écrivez, Claude Lelièvre, à l'époque, la première tâche de l'école républicaine, c'est de faire des républicains. C'est d'ailleurs pourquoi, écrivez-vous, elle doit alors être laïque. Et ce qui est mis au tout premier plan, c'est la morale. Alors, expliquez-nous comment est-ce qu'on articule tout ça en cette fin du 19e siècle, Claude Lelièvre.
Il ne faut pas oublier que les grandes lois qui ont précédé mettent au premier plan pour l'école du peuple, l'école primaire, non pas lire, écrire, compter, on y reviendra sûrement, mais en ce qui concerne la loi Guizot de 1833, ou la grande loi aussi de 1850. Il est mis instruction religieuse et éducation morale.
Tout ensemble.
Éducation morale plutôt et instruction religieuse. Ce qui est nouveau avec Jules Ferry, c'est toujours éducation morale et instruction civique. La République est mise à la place de Dieu.
Voilà. Donc ça, c'est clair.
Voilà le grand changement.
Ça, c'est clair.
Et c'est totalement clair. Oui. C'est d'ailleurs ce qui est foncièrement nouveau. C'est ce qui intéresse Jules Ferry parce qu'il pense qu'il n'y a pas de consolidation possible de pérennité du régime républicain sans que l'école publique soit dirigée par des républicains pour faire des républicains. Donc c'est une question de pérennité politique.
Parce qu'il faut se rappeler que la République était très fragile à l'époque.
Elle était très fragile. Elle avait juste une majorité relativement faible. Elle venait juste de triompher. Et c'était des combats extrêmement durs. Donc le fait qu'elle puisse partir de l'autre côté était une menace manifeste. Mais du coup... Ferry donne un rôle politique à l'école. C'est parce qu'il donne un rôle politique de faire des républicains. Faire des républicains à l'époque, c'est vraiment un engagement politique puisqu'il y a à peine une majorité de républicains.
Voilà. Donc,
c'est un rôle politique. Simplement, il dit qu'il ne doit pas avoir un rôle électoral. En revanche, les enseignants sont convoqués pour faire aimer pas seulement
faire aimer Marianne,
décrire,
oui.
aimer la République et aimer la Révolution française. Et j'ai autant de vous dire qu'à l'époque,
faire aimer la
Révolution française, ça n'allait pas de soi, puisque manifestement, la moitié des parents d'élèves étaient contre.
C'est ça, il faut rappeler ce contexte tendu de notre histoire quand même. C'est-à-dire que la Révolution française, c'était à deux générations de Jules Ferry.
Oui, et ça s'était passé de façon extrêmement violente.
Voilà, sanglante.
Sanglante. L'Église avait...
On avait souffert.
Mm-hmm. Et donc, du coup, elle était, à cette époque-là, de façon très générale, hostile à la République. Elle le pensait comme un danger pour son existence même, et l'existence même d'un certain nombre de membres du clergé, puisque c'est ce qui s'était passé dans les dérapages de la Révolution française. Donc, c'était vraiment un combat de tous les jours, bien plus intensif que certains des combats actuels. Donc, il y avait un engagement politique.
Et pour mener ce combat, il y avait ces fameux hussards noirs de la République. Qu'est-ce qu'il en est là aussi de la réalité historique ? Est-ce que à l'époque, Jules Ferry dispose d'une armée de hussards ? Est-ce que tous les enseignants sont mobilisés derrière lui pour faire aimer cette République ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ?
D'abord, il ne faut pas oublier plusieurs choses pour montrer la complexité de l'affaire et les difficultés dans lesquelles il se trouvait, qui ne sont pas totalement étrangères à certaines des nôtres. Dans l'école, une école publique à l'époque, c'était une école une école publique ne pouvait pas avoir de fonds privés. Qu'est-ce qu'était une école privée ? Aussitôt qu'une école avait un peu ou même un tout petit peu de fonds privés, elle était considérée comme privée.
Mmh.
Pour être une école publique, il fallait recevoir aucun fonds privé. C'était la différence entre privé et public, c'était son mode de financement. Nous voyons à quel point ce n'est plus le problème.
Ce fut le problème. Donc c'était ça le critère.
Mais en revanche, dans l'école publique, vous aviez comme maître des congréganistes.
Donc des religieux, membres de congrégations.
Des congrégations dans le public, au moment où arrive Jules Ferry, 25% des élèves de l'école publique sont de l'école publique, de l'école communale. Mmh. Donc celle qui doit devenir républicaine, 25% sont des maîtres congréganistes. Et surtout dans les écoles publiques de filles, presque la moitié
étaient des religieuses à ce moment-là.
C'était des religieuses.
Au sein de l'enseignement public.
Au sein de l'enseignement public.
Donc, sur financement public.
Or, que fait-il donc,
alors,
il y a le problème. Lui, il ne fait encore rien. C'est Goblet, son successeur, qui s'occupe de la question du personnel, puisque c'est décisif. C'est quelles sont les personnes, d'autant plus que comme c'est pas des laïcs religieux, ce ne sont même pas des prêtres, ce sont des congréganistes. Donc, ils doivent obéir à leur chef. Donc, à qui vont-ils obéir ?
Double allégeance.
Voilà.
Et donc, d'une certaine manière, Jules Ferry et les siens disent il faut donner du temps au temps. Donc, il y a 5 ans pour que les congréganistes hommes disparaissent de l'école publique.
Ah, c'était l'objectif fixé.
Oui, en 5 ans.
D'accord.
Et pour les filles, qui étaient beaucoup plus nombreuses, donc beaucoup plus difficiles à remplacer, on voit bien la question du temps au temps, et là, elles doivent être remplacées au fur et à mesure de leur disparition, retraite ou décès, par des laïcs. Donc, quand on arrive, par exemple, en 1902, au moment des grandes lois Combes contre les congréganistes, il y a encore 10% des filles des écoles publiques qui sont instruites par des congréganistes. Ça, c'est ma première réponse pour dire à quel point c'était pas si facile que ça.
Oui, il a fallu du temps.
Et donc, de l'autre côté, en revanche, il peut mobiliser bon nombre d'instituteurs et d'institutrices laïques parce qu'avec lui, elles ne sont plus inféodées aux prêtres.
Alors, à qui
sont-ils inféodés ? Ils ont une dignité. Du coup, face à l'inspection, elles sont dirigées, elles doivent rendre compte par rapport, évidemment,
à la République.
À la République et aux inspecteurs de la République. Donc, mais elles ne sont plus tenues d'être surveillées ou de rendre des services à l'Église, alors qu'auparavant, c'était le cas. En gros, il peut mobiliser parce qu'il y a une forme d'indépendance. Ils n'y gagnent pas beaucoup financièrement. Même, ils y perdent. Ils gagnent une indépendance et une autonomie. Donc, il peut les mobiliser pour la République. D'ailleurs, il n'arrête pas de le dire.
Mais qui était Claude Lelièvre, ces fameux hussards noirs dont nous parle Bernard Gorce ? Quel était leur profil ?
D'abord, c'est c'est presque un abus de langage de parler oui. hussard noir. Mm-hmm. Je le dis d'allure dans ce livre parce que, en réalité, quand Peggy, juste avant la guerre 14-18, parle des hussards noirs, il s'agit des normaliens.
D'accord.
Car seuls les normaliens portaient un
costume noir.
Un costume. Mmh. Bon, qu'on peut dire hussard noir.
Donc
bon.
C'est une figure de style.
En tout cas, ils avaient un oui. uniforme. Les enseignants du public à l'élémentaire n'ont jamais porté d'uniforme. Les élèves non plus, d'ailleurs.
Oui, on va en parler
tout
sur
ça,
les
c'est
uniformes.
Une, c'est, ce sont des légendes. Et donc, les hussards noirs, c'était pas les instituteurs. C'est un abus de langage, mais qui est persistant. C'est une figure de style actuellement de parler du hussard noir. C'était, mais cela dit, ça met l'accent quand même. C'est pour ça que je réponds. En détail, ça met l'accent sur l'idée que c'était quand même un corps, et en particulier qui était formé dans les écoles normales, et les écoles normales, c'était quand même des équivalents des couvents, mais des couvents laïques.
Oui,
donc on formait des promotions,
oui.
on formait de la un peu mm-hmm. de la même façon, avec un esprit de corps et collectif extrêmement fort. Par les écoles normales. D'ailleurs, Ferry dit que si vous voulez, dit-il, un corps d'institutrice fidèle à la République, il faut le former dans des écoles normales. Parce que si vous le formez pas, les écoles normales, c'est dans des internats, et dans les internats, on peut former des promotions. Si vous avez des externats, vous formez de bonnes individualités pédagogiques, mais pas un corps.
Donc, là,
donc c'est notre problème aussi actuellement.
Voilà. C'est une question d'organisation et d'institution. Alors si vous voulez bien, Claude Lelièvre, on va faire une première pause musicale. Et au milieu de cette conversation sur l'école, eh bien, si vous voulez bien, on va sortir de l'école avec Yves Montand.
Sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière Colliver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Vous avez reconnu évidemment Yves Montand sur des paroles de Jacques Prévert en sortant de l'école.
Les racines du présent, RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien de l'éducation Claude Lelièvre autour de son livre « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire », c'est publié chez Odile Jacob, et puis de notre confrère Bernard Gorce, journaliste à La Croix. Alors avec vous deux, eh bien, nous essayons de remonter le cours de l'histoire de notre école, de comprendre comment elle s'est construite Alors il y a un point qui est récurrent dans les débats autour de l'école aujourd'hui, c'est la question de l'enseignement de l'histoire. Alors évidemment, on entend beaucoup dire on n'enseigne plus l'histoire. De nombreux historiens qui viennent à ce micro du reste nous le rappellent régulièrement en le déplorant, et on invoque les mânes de Ernest Lavis, du Tour de France par deux enfants, de l'époque où on apprenait les dates, etc. Alors, je me tourne vers vous, Claude Lelièvre. Cette nostalgie est-elle justifiée ? Apprenait-on l'histoire mieux autrefois qu'aujourd'hui ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle l'histoire.
Voilà.
N'oublions pas que Lavis, et il ne s'en cache pas, dit que ces petits Lavis, c'est-à-dire des ouvrages qu'il a fait de façon délibérée pour, au fond, implanter une République nationale.
C'était à quelle date, rappelez-nous ?
C'est dans les années 1880-90.
Mmh,
donc, ces petits Lavis où il a eu le génie de mettre des gravures et de petites histoires, donc ont été très populaires. Ça a été un modèle qui a été pendant très longtemps.
Et c'est ça qui est devenu notre histoire.
Qui est devenu notre histoire, en tout cas l'histoire à l'école primaire. Mais à l'époque, il n'y avait que 2 ou 3% qui allaient dans l'enseignement secondaire. Hein. Donc c'était notre école. Et donc, ça a été aussi répété et décliné pendant longtemps à peu près de la même façon. Mais il dit lui-même que c'est une question non pas de l'instruction, mais de l'éducation. Puisqu'il dit que ce sont des contes et légendes. Il dit lui-même, il ne dit pas roman national, il dit ce sont des contes et légendes. Il faut présenter, il faut faire aimer la patrie, aimer la République.
C'est une histoire
légendée. Et en faire aimer avec, des légendes.
Oui.
Revendiquées comme telles. Pour frapper l'imaginaire et l'imagination des enfants. Il faut s'en emparer. Donc on est loin d'une histoire qui est envisagée d'un point de vue instructif. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. Et c'est revendiqué comme tel. Bon. Ce qui peut être compliqué quand on est historien. Puisque d'une certaine manière, c'est une dimension. Il y aurait certainement pas d'histoire s'il n'y avait pas des enjeux politiques et un certain imaginaire. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se suffire au XXIe siècle
pour
de cette histoire?
Pour vous résumer, Claude Lelièvre, le vase de Soissons, c'est une image publicitaire.
Mais il y a une série d'images publicitaires.
C'est ça.
Et fait en tant que tel. Mais le deuxième point aussi, c'est la fameuse histoire de nos ancêtres les Gaulois. Je pense qu'actuellement, c'est un des centres du problème. Parce que c'est une histoire qui est patriotique, mais elle n'est pas nationaliste au sens où elle cherche à dénigrer les autres, à les présenter comme des dangers ou des gens douteux.
Et ça, c'est pas xénophobe.
Elle n'est pas xénophobe. Et deuxièmement, et surtout, il s'agit de développer le passage de la civilisation. Nos ancêtres, ce sont pas les Gaulois, ce sont les Gallo-Romains.
Et ça, c'est vous qui le dites ou c'est Lavis?
Ah, c'est Lavis.
Oui, c'est Lavis, d'accord.
Lavis, je peux peut-être le lire,
Non, vous croyez.
La première page du livre, Lavis dit, vous voyez un Gaulois avec son fils, il y a une pauvre maison, il est vêtu de peau de bête, le garçon n'ira pas à l'école. Deuxième page. Vous voyez une ville, l'enfant va à l'école. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que les Romains ont battu les Gaulois et que les Gaulois, étant intelligents, se sont assimilé la civilisation en marche. Et il dit, nous sommes maintenant la France, la civilisation en marche, parce que nous sommes des républicains. Donc, nous sommes politiquement en avance. Donc, il s'agit de se rallier à la civilisation en marche, mais sûrement pas à des caractéristiques particulières de peuple, d'origine ou de géographie. C'est tout le contraire.
C'est tout le contraire.
Le roman national de Lavis, son intention est complètement contraire à ce qu'on fait dire actuellement, bon nombre de tenants du soi-disant roman national.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il y a au fond un projet très pédagogique. Et en même temps, on utilise des moyens qui sont, j'imagine, à l'époque assez modernes, que sont ces illustrés, enfin des nouvelles technologies. Comment se fait-il finalement qu'aujourd'hui toute cette éducation apparaisse un peu fossilisée et au contraire ça, si on était dans cette logique là on devrait aujourd'hui toujours développer de nouvelles pédagogies, trouver de nouveaux outils. Or il y a une espèce d'idéalisation de cet âge d'or et on essaye voilà. Au contraire de se refixer sur cette époque
on regarde dans le rétroviseur.
Oui, mais
Claude
Lelièvre. Alors là je ne sais pas si l'historien peut se prononcer sur ce qui pèse sur notre situation actuelle, mais je pense que comme nous sommes depuis un certain nombre d'années, et ça ne se fait que renforcer d'année en année, dans une situation anxiogène, où ce qui est extérieur à notre goal, en dehors de nos frontières, au lieu d'être des perspectives d'avenir, nous paraît
inquiétante,
nous paraît menacée. Évidemment, chaque fois qu'on est dans une situation anxiogène, on a une tendance à se replier sur des formes archaïques, relativement dépassées. Donc, mais d'une façon souvent fausse, parce que c'est, justement, quand on voit bien que le message de Lavis, c'est un message universalisant. C'est un message d'ouverture, c'est un message de conquête, c'est pas un message de repli. Donc c'est quand même extraordinaire que certains, pour moi, tentent de s'appuyer. C'est un contresens complet par rapport à ce que voulait et faisait Lavis en son temps.
Donc Monsieur Lavis revenait, et s'il était là aujourd'hui, il ferait certainement autre chose pour répondre aux défis de notre époque.
Tout à fait, en tout cas, sa ligne... sa ligne, ce serait de trouver de nouveaux moyens pédagogiques de façon à encore plus frapper les esprits, mais pas les frapper les esprits pour qu'ils se rabougrissent. Au contraire, s'épanouissent, soient conquérants et aillent vers l'avenir.
Alors, dans la série Nostalgie, peut-être regard dans le rétro, Claude Lelièvre, vous avez un chapitre sur les uniformes scolaires. Certains imaginent que autrefois les petits enfants dans les écoles, ils portaient tous des uniformes.
Ça fait partie de nos régressions. C'est-à-dire que c'est au fond la vue de la restauration. Et généralement, toute restauration est une restauration fausse.
C'est l'historien qui parle.
Et c'est le cas parce que il faut distinguer dans le privé. Il y a eu assez souvent des uniformes, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, parce que, au fond, c'était une façon d'avoir une sorte de patriotisme d'établissement. Dans le public, il y a eu des uniformes aussi dans certains lycées et collèges publics. Généralement les plus huppés. Mais là aussi, c'était pour patriotisme d'établissement. Ça n'avait rien à voir avec l'égalité entre les enfants. En revanche, contrairement à ce qu'on dit, et l'école publique communale était l'école de 95% des enfants, il n'y a jamais eu ni d'uniforme, ni de blouse obligatoire, et encore moins de blouse uniforme. Autrement dit, c'est une légende complète. D'ailleurs, il suffit de regarder des films bien faits ou de regarder sur Internet les photos de classe pour voir que c'est faux. C'est d'ailleurs intéressant parce que moi, autour de moi, et pourtant je suis un historien relativement réputé, avec des amis, eh bien, j'ai dû leur dire, allez voir sur Internet. Ils ne me croyaient pas. Ils avaient de faux souvenirs.
C'est ça. Nous avons tous de faux souvenirs en matière d'école. Alors, il y a un autre grand débat qui traverse aujourd'hui les questions autour de l'école, c'est de savoir si les responsables de l'école doivent être des instructeurs ou des éducateurs. Et on a parfois le sentiment d'assister à un combat un peu vain, du reste, entre des parents et des profs qui se renvoient la balle. Les parents qui disent c'est aux profs de les éduquer et les profs qui disent c'est aux parents de les éduquer. Est-ce que cette difficulté a toujours existé, Claude Lelièvre ?
Alors, elle n'a sûrement pas toujours existé parce que c'était évident pour, évidemment, les écoles d'église qu'elle était éducatrice.
D'accord.
C'était évident aussi pour l'école qui précédait l'école de la République. Elle s'est même faite pour ça, avant tout, pour éduquer. C'était vrai aussi, bien entendu, pour Jules Ferry et les
siens. Alors, quelle était la position de Jules Ferry?
La position de Jules Ferry, il s'agissait avant tout de faire des républicains et par tous les moyens. On ne peut pas dire que ce soit automatiquement une position très instructive, parce que ça c'est quand même un fameux problème. Donc, il s'agissait donc de combattre et d'illustrer les Lavis, ce ne sont pas particulièrement instructifs. Ils sont du côté de l'éducation.
D'accord.
Et Jules Ferry, quand il fait sa loi sur la laïcité, il accompagne cette loi d'une lettre aux enseignants. Et il dit aux enseignants, nous ne vous avons pas déchargé de l'éducation morale, parce que l'éducation morale, c'est ce qui fait votre dignité, la dignité de votre magistère.
Est-ce que Jean-Michel Blanquer pourrait dire ça aujourd'hui à ses enseignants?
Mais justement, alors là, on voit bien qu'on a changé en particulier de mode. Mais donc, à l'origine, on n'était pas d'abord du côté de l'instruction, on était du côté de l'éducation. Une nouvelle fois, ceux qui disent qu'actuellement, en gros, on va trop vers l'éducation et qu'il faut retourner à avant, mais c'est une nouvelle fois une restauration complètement démente sur le plan spirituel.
C'est
complètement faussé. Oui. Manifestement, ils n'ont pas lu une ligne de Jules Ferry pour dire ça. Je soupçonne certains d'en avoir lu quand même, ou de m'avoir lu, mais de le dire quand même. Bon, parce qu'il y a des résistances à ça. Il y a des raisons qui ne sont pas du côté instructif à raconter cette blague. Mais moi, je pense que ce n'est pas possible qu'il y ait une école ou une, en gros, sans qu'il y ait éducation. Mais le problème est de savoir dans quelle mesure on peut faire place, justement, à de l'instruction.
Mais alors, faire justement ce que vous appelez, non pas de l'instruction, mais de l'éducation, est-ce que ce n'était pas plus simple autrefois, à cette époque-là, parce qu'il y avait ce que Jules Ferry lui-même appelait une morale commune ou une forme de bon sens commun sur lequel on pouvait appuyer cette éducation pédagogique pour en faire des enfants, des bons citoyens.
Claude Lelièvre.
Oui, c'est une bonne question et sûrement que c'est plus difficile pour nous parce qu'on a certainement des principes moraux nettement moins partagés.
Alors voilà, qu'est-ce qui est partagé?
Mais, j'ajoute, ce n'était pas simple non plus à l'époque, parce que tout, contrairement là aussi à ce qu'on croit, puisque tous les rapports d'inspection de l'époque, moi j'étais à une thèse où j'étais de jury thèse, qui faisait justement, avait traité de cette question, et c'était une fameuse question difficile pour les instituteurs de faire ces instructions de morale. Ça n'a jamais été quelque chose de facile. Alors, les principes en eux-mêmes étaient plus faciles à admettre, mais la façon de faire a toujours fait problème. Comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? C'était pas facile et les maîtres avaient une tendance à se défiler de cette question.
Mais les maîtres à cette époque-là avaient de l'autorité portée par l'institution, confiée par l'institution. Voilà. Et aujourd'hui, ils n'ont plus cette autorité. C'est aussi autre chose qu'on entend beaucoup.
Ils sont contestés sur le fond même.
Il est plus bon. Est-ce que là aussi, c'est une vision un peu idéalisée du passé ou est-ce que c'est vrai ça
c'est... Claude Lelièvre.
Je pense que c'est toujours difficile de savoir dans quelle mesure. En tout cas, croire lui aussi que c'était facile à l'époque est manifestement faux. D'abord, pour une raison. Un certain nombre d'instituteurs devaient être des esprits frappeurs.
C'est-à-dire
physiquement, par exemple.
Ils frappaient physiquement et assez souvent leurs élèves.
Oui, mais ça aussi, ça faisait partie de la morale partagée.
Mais s'ils étaient obligés de le faire, s'ils le faisaient, c'est que ce n'était pas si simple.
D'accord.
C'est la première chose. Bon. Et normalement, ils ne devaient pas le faire. Parce que justement, dans la concurrence avec l'école des frères, on disait l'école des frères. Dans l'école publique, on dit à l'école des frères, c'est une école d'esprit frappeur.
Ah oui.
Avec la férule. Nous n'utilisons pas la férule. C'était même dans les manuels. On disait, nous l'utilisons. Mais dans les faits, les instituteurs le faisaient malgré le fait qu'ils ne devaient pas le faire. Donc, tout ça est bien plus compliqué qu'on ne le croit. Croire qu'il y avait automatiquement une autorité qui s'imposait et que tout le monde était d'accord sur le fait que les disciplines devaient enseigner et que automatiquement moi je sais par exemple que l'histoire était importante pour enseigner la République, eh bien bon nombre d'instituteurs n'enseignaient pas l'histoire.
C'est-à-dire ils refusaient.
Parce qu'ils considéraient qu'il fallait plutôt faire lire, écrire, compter.
D'accord.
Par exemple, Lavis disait il faut enseigner l'histoire par le cœur, pas par cœur.
Jolie expression.
Et pas par cœur. Eh bien, les instituteurs, bon nombre d'instituteurs, ont enseigné par cœur. Mmh. Eh bien, ce qui montre que tout, il faut pas rêver et croire qu'il y a eu un monde homogène,
une école idéale du passé
où l'idéal fonctionnait.
Ça n'a jamais existé.
C'est une blague.
Ça a toujours été compliqué.
Alors,
ça a toujours été en construction.
Plus ou moins compliqué.
Tension,
je ne dis pas qu'on a. C'est plus complexe. C'est, je dirais, c'est plus complexe pour nous.
Oui.
Sûrement. Je suis d'accord. Mais c'était compliqué aussi avant.
Alors, ce qui est compliqué aussi, et on le comprend en vous écoutant et en vous lisant, Claude Lelièvre, à travers votre livre donc sur l'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire, chez Odile Jacob, deux siècles d'histoire de l'école aujourd'hui, c'est bien la question du rapport entre l'enseignement public et l'enseignement privé. On voit bien, dès le début, qu'il y a eu des tensions qui ont culminé à certaines époques. Quel regard portez-vous en tant qu'historien sur cette tension? Est-ce qu'on peut la lire comme une complémentarité jamais vraiment construite ou comme une tension jamais vraiment résolue, Claude Lelièvre?
En tout cas, au départ, elle n'était pas conçue du tout comme une complémentarité.
Oui, c'était une opposition.
C'était une opposition qui, d'ailleurs, n'a pas commencé avec Jules Ferry, mais qui, évidemment, s'est particulièrement précipitée avec Jules Ferry et l'existence d'une école républicaine publique où était écarté de la direction dans un premier temps et petit à petit comme acteur les hommes d'église. Donc, et de ce point de vue-là, il y a eu des conflits, et il y a eu des conflits très très forts. Il y a eu par exemple des conflits sur les manuels,
c'est-à-dire
sur les outils. L'Église a tenté de peser sur le contenu des manuels de l'école publique à plusieurs reprises.
Parce que les manuels de l'école publique faisaient la promotion de la République, alors que l'Église n'était pas vraiment du côté de la République.
Parce que la morale n'était pas fondée sur
Dieu,
une confession.
Oui.
Et donc, elle considérait qu'un certain nombre des vérités ou des enseignements étaient douteux. Et donc, elle demandait à ses ouailles de ne pas tolérer.
Donc c'était clairement
d'interdire à leurs enfants d'utiliser les outils de l'école républicaine.
Alors,
il faut voir ça parce que on en parle actuellement sous d'autres formes, ça a été quelquefois paroxystique.
Bon, à ce point, oui.
À ce point.
Alors comment ça a évolué?
Alors ça a évolué par une série d'affrontements et avec l'idée du général de Gaulle d'essayer de surmonter cette opposition biséculaire.
Alors c'était la loi Debré.
C'est la loi Debré.
Oui.
Il faut se souvenir assez vite que la loi Debré a été il y a eu une opposition aussi bien des forces organisées dans le CNAL, le Comité National d'Action Laïque, où il y avait la FEN, la Fédération d'Éducation Nationale, le SNI, les syndicats nationaux des instituteurs, la Ligue de l'Enseignement et les parents d'élèves. Mais ce qu'on a souvent oublié, c'est qu'une bonne partie des organisations catholiques étaient méfiantes et a même mobilisé. Il y a eu des manifestations contre les projets de De Gaulle. En gros, De Gaulle a fait
une sorte de compromis historique.
Oui. Son compromis historique, c'était de dire... au fond, à l'école, et dans l'école, il y aura des écoles avec contrat. Ce que réclamait les courants dominants de l'Église, c'était qu'on finance d'une certaine manière une entité près de l'Église qui elle-même financerait les établissements. Mais De Gaulle a voulu l'idée de contrat, c'est-à-dire que l'enseignement qui soit fait dans les écoles sous contrat, soit un enseignement que peut suivre n'importe quel élève.
C'était le même enseignement.
C'est le même enseignement,
voilà.
Mais avec un caractère propre de l'établissement.
Voilà, c'est le fameux caractère propre.
Caractère propre. Et bien entendu, du côté du CNAL, c'est la condamnation.
Oui.
Du côté des forces organisées catholiques, de la plupart, c'est... pas vraiment souvent la condamnation, mais en tout cas des réserves extrêmement fortes.
On veut nous acheter.
Des réserves très très fortes. Et donc, du coup, pendant un certain nombre d'années, les uns ou les autres, selon qu'ils se retrouvaient au pouvoir ou pas, ont essayé d'infléchir la loi Debré. Mais au fond, actuellement...
Ça fonctionne toujours.
après bon nombre de tentatives d'infléchissement, ça reste le point d'équilibre et finalement, c'est fondamentalement un point d'équilibre. Mmh. Il faudrait un traumatisme extraordinaire maintenant pour que la loi de Bray, dans ses fondements, soit remis en cause. Alors bien, il y a toujours une petite guérilla, etc., etc. D'ailleurs,
Bernard Gorce. Aujourd'hui, en très gros, c'est 80% des effectifs dans le public, 20% dans le privé sous contrat. À l'époque, en 62, ça représente quoi les équilibres? C'était très différent.
Alors, au niveau du primaire, on était à peu près à ce taux-là. Alors, il faut savoir que les taux sont différents selon les ordres d'enseignement. Ce qui est remarquable, alors, en gros, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a sauvegardé, au fond, la loi de Bray, dans les faits, a sauvegardé à peu près le partage. Et surtout dans le secondaire. Le secondaire tendait à s'effriter très fortement du côté du privé. Il était beaucoup plus fort que maintenant. Hein. À l'époque, c'était de l'ordre de 30-40%. Et après-guerre, c'était du 50% dans le second degré.
Voilà, mais c'était avant la massification. C'était avant la massification. C'est avant que le collège devienne unique et toutes ces réformes qui ont amené un grand nombre de...
Donc, mais depuis au moins une trentaine d'années, en réalité... une cinquantaine d'années, ça bouge au maximum de 1% en plus, 1% en moins.
Donc c'est 50 stable.
Ans. Donc les choses sont... paysage est...
C'est foncièrement stabilisé. Les rapports de force, les rapports de marché, les parts de marché, c'est-à-dire que dans l'élémentaire, on est autour de 12-13%. Dans le préélémentaire, dans l'élémentaire, on est autour de 14%, à 1,5% près sur 50 ans. Hein. Au niveau du collège, c'est du 22%. C'est le seul cas où ça augmente légèrement. Et puis dans les autres cas, au lycée professionnel, on est autour un peu plus de 20%.
Mais ça dépend des territoires.
Mais
aussi.
Ce qui est le plus remarquable, ce qui est le plus remarquable, c'est que au fond, ça a sauvegardé les parts de marché respectifs. Si je résume et je durcis.
La situation est figée en quelque sorte.
Ce qui est le plus remarquable, c'est le nombre de gens qui passent de l'un à l'autre.
Voilà.
Et ça, sans cesse, c'est complètement pas perçu. Chaque année, moi, je vois dans les journaux, il y a quelques milliers de plus dans le privé ou dans le public. Mais chaque année. Il y a chaque année 130 000 élèves du privé qui passent dans le public et 150 000 du public qui passent dans le privé. Chaque année. Donc les grands transferts, c'est pas les quelques milieux de la rentrée dont on fait toujours état. Ça, c'est le premier point.
Preuve que la guerre scolaire de ce côté-là est enterrée. La réforme de 62, finalement,
La moitié des familles utilisent les deux systèmes. La moitié.
Finalement, oui.
Et sans compter tous ceux qui envisagent, j'ai dit bien les deux systèmes, c'est-à-dire le privé et le public. Et pour donner un ordre de grandeur, si on regarde, par exemple, ceux qui arrivent au baccalauréat, 7% seulement de ceux qui arrivent au baccalauréat font toute leur scolarité dans le privé.
C'est ça.
7%. 40% l'ont fait dans les deux. 40%.
Donc c'est très bigarré.
C'est très bigarré et à partir de là, il y a une très large majorité pour rester en l'état.
Que personne ne bouge. Finalement, c'est un pôle de paix dans la société française.
Et de ce point de vue-là, c'est un changement prodigieux dans la question des politiques scolaires.
Voilà.
Parce que cette question
c'est un apaisement.
C'est un apaisement. Cette question était toujours la question centrale. Quand on disait la question scolaire, c'était celle-là. Donc maintenant, c'est d'autres questions qui sont devenues en avant.
Alors, on va y revenir, mais on va faire une nouvelle pause musicale. On va se faire un petit plaisir avec notre ami France Gall, évidemment. C'était en 1964.
Cette idée folle, un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participation
4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de
travail.
Travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Oh, oh, sacré Charlemagne.
De bataille et de chasse, nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé,
participe passé.
4 et 4 font 8,
4 et 4 font 8.
Leçon de français.
Leçon de français.
Nous étions en 1964 avec France Gall, c'était Sacré Charlemagne.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent autour, aujourd'hui, cette semaine, autour de l'histoire de notre école, l'histoire de notre système d'éducation en France, à travers deux siècles d'histoire magistralement retracés par l'historien Claude Lelièvre, lui-même historien d'éducation, dans son dernier livre « L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire » chez Odile Jacob. Nous sommes également en compagnie de Bernard Gors, journaliste à La Croix. Alors Claude Lelièvre, il y a une question qui parcourt toute cette évolution de l'histoire de notre système éducatif. C'est non seulement la tension et peut-être l'harmonisation aujourd'hui entre le public et le privé, on vient de le voir, mais c'est la question de la mixité sociale. Au tout début, la mixité sociale n'était pas véritablement une réalité. Aujourd'hui, on est dans un phénomène de massification et pourtant, les inégalités sociales semblent subsister au sein de l'école. Comment voyez-vous l'évolution de cette question de la baisse des inégalités sociales au sein du système scolaire français, Claude Lelièvre ?
D'abord, je voudrais rappeler que si on se reporte pas mal dans le temps, la mixité sociale, elle n'était pas du tout un objectif. Elle était même redoutée.
Redoutée par qui ?
Dans les écoles d'église, oui. Il y avait manifestement des écoles qui étaient faites, mais de façon très ouverte, mmh. Pour telle ou telle catégorie sociale. Et quand elles accueillaient plusieurs catégories, mmh. elles les séparaient éventuellement de façon délibérée déjà. Ça, il y avait pas d'état d'âme, si j'ose dire, mmh. du côté de la plupart des écoles privées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'école pour des pauvres, par exemple, oui. mais séparées.
Mmh.
Donc il n'y avait pas la question de la mixité.
Et du côté de l'école républicaine.
Et du côté de l'école républicaine, quand, avec Jules Ferry, c'est une hérésie totale de croire que Jules Ferry est pour la mixité sociale. Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Chacun à sa place.
Chacun à sa place.
Oui. Les bourgeois avec les bourgeois.
Pour des raisons idéologiques ou pour des raisons pragmatiques d'ordre public, on pourrait dire presque.
Parce que pour lui, alors en ce qui concerne, parce qu'on pourrait faire la comparaison aussi avec la mixité genrée.
Parce que, oui, naturellement, oui. Je comptais bien y venir aussi. Allez-y,
ce qui est remarquable dans le fameux discours de Jules Ferry à la salle Molière sur l'égalité d'éducation.
En 1880.
C'était en 1870, il n'était pas encore au pouvoir.
D'accord.
Mais mmh. c'était programmatique. Oui. Il fait un discours sur l'égalité d'éducation. Alors, pour les ouvriers mmh. et pour les femmes. Et il dit, l'égalité d'éducation, ce n'est pas un faux problème, ce n'est pas une utopie, parce que ça existe déjà sur le plan économique et social. Pas l'égalité d'éducation, l'égalité. Mmh. Alors, et il dit, nous avons une dernière chose à faire, c'est l'égalité d'éducation. Alors, nous, qui ont été soumis un peu au moins mmh. à des idéologies ou des objectifs de type socialisant, on est extrêmement surpris de ce qu'il vient de raconter. On se dit, mais mince alors, c'est pas croyable. Il dit qu'on est égalitaire sur le plan économique. Parce que, pour lui, l'égalité, c'est l'égalité juridique.
C'est-à-dire chacun
c'est,
sa place
c'est, c'est-à-dire que c'est plus... On a sorti oui. du régime de caste. Mmh. Du régime de
oui.
caste.
Oui.
Et donc, si il faut aller jusqu'au bout pour sortir mmh. du régime de caste. Mmh. Dans le régime de caste, ce qui compte, ce sont les contrats. Si les contrats sont libres, s'ils sont faits en connaissance de cause, alors on est libre.
Parce
qu'on est égal.
On ne dépend pas uniquement de sa naissance.
Parce qu'on ne dépend pas de sa naissance. Mais c'est pas une égalité de conditions
du tout. C'est une forme d'inégalité qui nous échappe aujourd'hui.
Il ne s'agit pas du tout de sortir de sa condition. C'est une folie furieuse du point de vue historique de dire que Ferry voulait l'ascenseur social. Il est contre. Non seulement il n'est pas pour, mais il est contre. Il n'arrête pas de le dire parce qu'il dit que c'est des utopies socialistes, folles, etc.
Oui, c'est ceux contre lesquels... C'était les communards contre lesquels il a lutté lui-même.
Mais bien sûr. Voilà. Donc, il faut bien comprendre. Ce n'est pas rien l'égalité juridique, mais c'est l'égalité juridique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans les programmes de l'école primaire, il y a du droit et de l'économie. Nous n'en avons plus et je trouve ça très bizarre.
C'est-à-dire ?
Parce que je pense que normalement, un citoyen... quel qu'il soit, devrait avoir des notions fondamentales d'économie et de droit. Eh oui, alors, mais ce n'est pas un détail.
Bon. Non, ce n'est pas un détail, c'est sûr. Est-ce que, à partir de quand a-t-on fait des progrès en matière de réduction des inégalités sociales au sein de l'école, de mixité sociale?
Eh bien, ça a été extrêmement long.
Oui.
Et ça, je pense que c'est très utile que ceux qui nous entendent le sachent. C'est-à-dire que c'est la question de l'égalité... au sens égalité sociale, est une question extrêmement difficile parce qu'elle est très complexe. De quelle égalité s'agit-il ? Alors, est-ce qu'il s'agit de l'égalité juridique ? Je viens d'en parler. Est-ce qu'il s'agit de l'égalité au sens d'un recrutement socialement élargi des élites ?
Ouais. Ah oui, c'est encore autre chose.
Ou est-ce qu'il s'agit de la promotion, dans la mesure du possible, de presque tous ? Et ça, c'est trois types d'égalité. Nous sommes actuellement sur la ligne Ratzog. Nous sommes tous des radicaux socialistes.
C'est-à-dire ?
Je veux dire qu'au moment, juste après la guerre 14-18, il y a eu un mouvement qui s'appelle les compagnons de l'Université de Nouvelle qui ont voulu l'école unique. Et l'école unique, c'était le recrutement socialement élargi des élites. C'est-à-dire que s'il y avait des enfants doués et qu'ils voulaient continuer leurs études,
on devait les faire monter.
Les autres, ils devaient rester où ils étaient. C'était ça l'objectif.
Et aujourd'hui, tout le monde a le bac.
C'est pas automatiquement monté, pareil.
D'accord.
La question de la prolongation. Le plan Langevin-Wallon, au moment de la libération, dit qu'il faut aller bien au-delà, justement, d'un recrutement socialement élargi des élites. Ils disent que ça, c'est vraiment, en gros, le degré 1. De l'égalité. Le degré 2, c'est le deuxième. Mais nous sommes quand même fondamentalement toujours sur le 1. Pour l'essentiel, dans la réalité, ce qui compte avant tout, ce dont on discute dans les journaux, c'est des grandes écoles, le recrutement plus ou moins égalitaire des grandes écoles. Mais si on descend beaucoup, on en discute beaucoup moins du reste.
Et pourtant, le lycée et le collège Giscard d'Estaing, je crois que c'est 74, où on crée le collège unique. Et là, on dépasse simplement l'idée qu'il faut pouvoir faire monter des élites qui viennent de milieux défavorisés. Il y a l'idée de véritablement donner la même éducation pour tout le monde.
Jusqu'au niveau de la fin de la scolarité obligatoire.
Jusqu'à
16 ans. Oui. Parce que tout simplement, on a mis en place une scolarité obligatoire qui passe de 14 à 18. Nous sommes dans le cadre de la scolarité obligatoire avec le collège unique. Eh bien, on n'a même pas réussi à le faire.
C'est-à-dire ?
Je veux dire, on l'a fait en théorie, mais dans le fonctionnement réel, chacun sait... Selon les types d'établissements, selon leurs organisations, nous n'avons pas véritablement cette unicité. Par le jeu des options, on voit à quel point un certain nombre d'intérêts collectifs luttent pour garder soit dans certains établissements, soit à l'intérieur des établissements, des chemins particuliers.
Oui, même les plus radicaux socialistes entre nous, comme vous dites.
Exactement.
C'est ça.
Alors, on pourrait dire que c'est décourageant, mais moi je dis que c'est pas décourageant si on sait à quel point c'est une idée neuve. Je veux dire que...
Encore aujourd'hui.
C'est une idée neuve parce qu'en gros, on ne l'a jamais vraiment fait et on l'a fait dans la confusion. C'est pour ça que je crois que ce qui est utile, ce que j'essaie de faire, mm-hmm. c'est de bien essayer de déterminer les différents types d'égalité. C'est encore, on ne sait pas. Par exemple, quand on parle d'égalité des chances, on ne sait pas de quoi on parle.
Oui, c'est devenu.
Il y a
un
tellement
totem.
De versions
oui.
de ce que ça signifie. Mm-hmm. Est-ce que c'est pousser le destin individuel d'extrême
oui.
ou bien autre chose?
Je vais, malheureusement, on est en train d'arriver au terme de cette conversation absolument passionnante. Claude Lelièvre, vous êtes historien de l'éducation. Si vous étiez, si d'aventure vous étiez ministre de l'éducation nationale, est-ce que vous soutiendriez la proposition que Emmanuel Macron a faite à Marseille récemment? Il a expliqué que, après tout, les directeurs d'école du privé, du public, devraient avoir les moyens d'articuler eux-mêmes leur propre équipe pédagogique. Et il a souhaité que plusieurs dizaines d'écoles mettent en œuvre un système expérimental, dont par ailleurs on sait qu'il existe dans l'enseignement privé. Que feriez-vous si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, Claude Lelièvre ?
Je ne ferais pas ça parce que je suis républicain.
C'est-à-dire ?
Et pas bonapartiste.
Oui, expliquez-nous. Expliquez-nous.
L'idée de chef d'établissement, oui. en dehors du privé, c'est une idée foncièrement bonapartiste. Quand les chefs d'établissement, les vrais chefs d'établissement, ils sont dans le secondaire, dans le public. Ils sont ni dans le supérieur, ni dans le primaire.
Oui.
Ça a été créé par Napoléon.
Oui.
Après les écoles centrales, car les écoles centrales, elles étaient dirigées de façon collégiale. C'est-à-dire qu'au moment où les écoles centrales, les écoles, premières écoles républicaines sont dirigées de façon collégiale. Les républicains considèrent, c'est le bas à bas, être républicain, c'est être co-souverain et ne pas croire au souverain personnel.
Exactement, c'est ce qu'ont répondu les syndicats.
Mais ils ont bien raison.
D'accord.
Ils ont bien raison historiquement.
Mais est-ce qu'on ne peut pas poser la question, vu l'expérimentation des écoles privées depuis déjà un certain temps, depuis déjà longtemps, sauf erreur de ma part, c'est un système qui fonctionne où on a des...
Et le problème, il fonctionne...
Qui n'est pas forcément bonapartiste, Claude Lelièvre. Allez-y.
Le problème, c'est comment on fait des républicains.
Oui.
Alors, ça ne va pas jusqu'au bout, mais c'est une question... comment on forme des républicains? Alors, quand Jules Ferry arrive, il refuse... Il se prononce pour la liberté pédagogique.
Mmh. Déjà.
Alors, lui, il est pour. Et il dit, il n'est pas question qu'il y ait un matériel imposé par le gouvernement. Parce que la discussion pour choisir les livres fera une discussion collective. Et dans cette discussion collective, les enseignants pourront collectivement s'approprier les réformes futures. Ben, il s'agit de savoir si on est pour développer le pouvoir personnel à tous les niveaux.
Parce que le
problème du bon fonctionnement, c'est de fonctionner pourquoi et comment et pour qui.
Très bien. Ben, écoutez, ça sera la dernière question posée par vous, Claude Lelièvre. Avec vous, nous avons passé en revue deux siècles de l'histoire de notre éducation, de l'histoire de notre école. Je rappelle le titre de votre livre, L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire, chez Odile Jacob. C'est absolument passionnant parce que ce livre nous oblige à remettre en question un certain nombre de clichés que nous avons en tête sur l'histoire de notre école, sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire, sur l'organisation des écoles, sur le rapport entre l'école publique et l'école privée. Donc un grand merci à vous, Claude Lelièvre, pour votre livre et pour vos travaux. Je remercie également Bernard Gors, journaliste à la Croix, qui a contribué à nourrir cette conversation. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Claude Lelièvre sur le site de RCF. Et vous pouvez évidemment également nous écouter en balado-diffusion où vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.